Une nuit tout en douceur.
Avec Radio Classique.
Thank you.
La nuit, vous êtes bien avec Radio Classique.
Thank you.
Vous êtes bien toute la nuit avec Radio Classique.
We'll be right back.
Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Heikel Balti.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le fondateur de Faircraft. Vous fabriquez du cuir en laboratoire à partir de cellules de peau que vous mettez en culture. Pourquoi créer du cuir en laboratoire ?
Bien, parce que le cuir, c'est une matière qui est très appréciée pour beaucoup de raisons. C'est une matière qui est belle, c'est une matière qui est robuste. Mais c'est aussi une matière qui est souvent décrite comme étant l'une des plus polluantes dans l'industrie de la mode. Et en plus de ça, c'est une matière qui peut poser problème à un certain nombre de personnes pour lesquelles l'éthique est importante. L'éthique animale, on va dire. Et donc voilà, raison pour laquelle on a lancé cette société.
Alors, des cellules de peau que vous mettez en culture, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment est-ce que vous procédez ?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une petite biopsie de peau, de quelques millimètres carrés, donc une petite biopsie de peau animale. Donc, c'est un procédé qui est indolore pour l'animal. On récupère donc ces cellules de peau, on les démultiplie dans ce qu'on appelle un bioréacteur. On vient les semer sur un support, un peu comme des graines qu'on
met en
cultiver,
culture.
Exactement. Ces cellules se mettent à leur tour à produire du collagène, de l'élastine autour d'elles, ce qui nous permet de reproduire donc une peau in vitro.
Combien de temps il faut pour produire une peau ?
Il nous faut à peu près un mois pour produire une peau in vitro.
Oui. Est-ce que ce cuir in vitro, il peut être optimisé ? Est-ce qu'il a des propriétés que n'a pas le cuir naturel ? Est-ce qu'il est par exemple plus épais, plus souple ? Est-ce qu'il a moins de défauts ?
Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant dans le procédé, c'est qu'on peut créer donc, des matières sans défauts, chose qui est problématique aujourd'hui dans l'industrie du cuir parce qu'il y a énormément de variabilité de peau en peau. On a aussi la capacité finalement de paramétrer certains des éléments clés tels que le taux de collagène, la porosité, la respirabilité de la matière. Et donc l'enjeu pour nous, c'est aussi de proposer des choses à la fois très comprises, mais aussi nouvelles qui peuvent proposer un intérêt à la fois pour les utilisateurs, les designers.
Est-ce qu'en matière de propriété, ce cuir en laboratoire, il a aussi l'odeur du cuir naturel ? Ou est-ce qu'il est différent ?
Oui, complètement. Donc il faut se dire que dans un cuir naturel classique, l'odeur provient pas mal du tannage. Ce qui est intéressant dans notre solution, c'est qu'elle est à la fois très innovante, mais aussi très traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, de biotechnologie, de brevets, mais c'est aussi une matière qui est tannée en utilisant des savoir-faire qui sont traditionnels, des équipements qui sont traditionnels, mais on rend plus propre cette étape de tannage pour avoir une solution qui soit cohérente.
Quand est-ce que vous avez prévu de passer à l'échelle et de produire de manière industrielle ?
Donc, on a créé la société en 2021. Depuis, on a beaucoup travaillé sur les sujets de R&D. On a déposé un certain nombre de brevets. Aujourd'hui, on rentre dans une phase d'industrialisation donc qui va nous permettre, à un horizon de 2 à 3 ans, de lancer une première usine.
Quel est le coût de revient ? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que du cuir naturel ?
Aujourd'hui, ça coûte plus cher.
Quand vous dites plus cher, quel est l'ordre de grandeur ?
Aujourd'hui, on est sur un facteur de 5x à peu près.
Ouais.
5x.
5 fois.
Ouais, c'est ça. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles c'est plus cher aujourd'hui, c'est que tous les procédés n'existent pas sur étagère, entre guillemets. Donc, on développe à la fois la biologie, mais aussi l'ingénierie et les équipements qui sont nécessaires pour produire cette matière.
Pareil que vous êtes un homme très courtisé, notamment par les marques de luxe. Pourquoi est-ce que ce cuir, il est intéressant pour les entreprises du luxe ?
Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Comme on l'a dit, il y a des sujets environnementaux. Le cuir est une matière qui, malheureusement, génère beaucoup de déchets, utilise beaucoup d'eau. Donc, il y a une volonté d'un certain nombre de marques de luxe d'améliorer en fait, leur empreinte environnementale. Donc, c'est un moyen pour elles. C'est un moyen aussi d'élargir, finalement, leur clientèle, c'est-à-dire qu'il y a une part croissante finalement de consommateurs pour lesquels la partie environnementale, valeur est très importante. Et puis derniers aspects, il y a des sujets très opérationnels aussi, d'approvisionnement, de qualité, auxquels on répond.
Le luxe est une énorme industrie, est-ce que vous pensez pouvoir répondre à cette demande ?
Oui, complètement. Ce qu'il y a de très intéressant dans notre procédé, c'est que en termes de toucher, de ressenti, en termes d'histoire, il est très compatible avec ce qui est porté par l'industrie du luxe, les savoir-faire, la tradition. Par ailleurs, en fait, le procédé est réalisé de telle sorte qu'il puisse passer à l'échelle. Et effectivement, c'est l'un des gros enjeux de la société.
Du cuir fabriqué en laboratoire, est-ce que pour autant c'est considéré comme un produit vegan ? Au départ, il y a des cellules animales, mais vous l'avez dit, il n'y a pas de souffrance animale.
Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, pas certain que ça soit considéré comme étant vegan. Ce qui importe beaucoup un certain nombre de consommateurs, c'est la partie souffrance animale. Et donc nous, notamment sur la partie prélèvement des cellules, on a mis en place le procédé avec un comité d'éthique indépendant qui nous a accompagnés pour faire en sorte que justement, ça ne provoque pas de souffrance chez l'animal. On prend quelques millimètres carrés de peau, c'est anesthésie localement et puis après l'animal retourne vivre sa vie.
Est-ce que vous avez échangé en amont avec les défenseurs de la cause animale ?
Ça fait partie effectivement des personnes avec lesquelles on a parlé pour mieux comprendre finalement les attentes. Le tout pour nous, c'est justement de faire en sorte que ça soit des matières qui soient acceptables par ce public, mais aussi plus largement par des personnes qui sont intéressées par des matières performantes.
Est-ce que le procédé fonctionne avec n'importe quel type de cellules ? On pense évidemment au cuir de vache qui est le plus courant, mais il y a aussi l'agneau, il y a aussi plein d'autres animaux dont certains sont protégés.
Oui, complètement. Donc aujourd'hui, on travaille sur différents types de cuir in vitro, veau, agneau, on a même commencé par le lapin. C'est en fait une technologie qui est compatible avec une très grande variété de types de cellules. Et donc, effectivement, on peut élargir très largement nos produits.
Merci beaucoup, Heikel Balti, fondateur de Faircraft, entreprise qui fabrique du cuir en laboratoire et qui est désormais très courtisé par les grands noms de l'industrie du luxe.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Luc Ferry qui nous fait redécouvrir tous les matins la mythologie grecque. Ce matin, Luc, on se penche sur le mythe de Prométhée. C'est un titan de la mythologie grecque.
Mon cher Stéphane, on va parler de l'homme prométhéen, en effet. Qu'est-ce que c'est qu'un homme prométhéen ? Eh bien, c'est un type qui se prend pour Dieu, c'est l'homme de la technique, comme dira Heidegger. C'est l'homme qui veut être l'égal des dieux. Voilà. Et ça vient évidemment d'un mythe qui est le plus important à mes yeux de toute l'histoire de la mythologie grecque. C'est celui que je préfère, c'est le mythe de Prométhée. On le trouve notamment développé chez Platon. Et donc, quand les dieux ont... Alors, il y a toute une histoire, on le trouve aussi dans Hésiode, mais bon. En tout cas, quand les dieux ont réussi les Olympiens à combattre les titans, à enfermer les titans dans les sous-sols de l'Hadès, ils s'installent sur l'Olympe, et c'est là qu'apparaît le fameux calme olympien. Il ne se passe plus rien, c'est le calme absolu, donc c'est la paix absolue, mais la paix c'est ennuyeux pour les dieux, ils s'embêtent à mourir, et donc Zeus finit par demander à Prométhée de fabriquer des humains mortels pour que quelque chose se passe, pour que l'histoire revienne, la succession des générations. Et le frère de Prométhée, alors ses noms ont du sens, Prométhée c'est celui qui pense en avant, c'est l'intelligent de la famille. Épiméthée, son frère, c'est celui qui pense en retard, c'est l'idiot de la famille. Mais Épiméthée lui demande de s'exercer d'abord de le laisser s'exercer sur les animaux. Et donc Épiméthée fabrique les mortels animaux, si je puis dire, mais il leur distribue tous les dons. Il donne une carapace à la tortue, il donne de la fourrure aux ours, il donne des griffes aux uns, la capacité à courir très vite aux autres, etc. Construire des terriers pour le lapin, pour échapper au renard. Enfin, il distribue tous les dons aux animaux, ce qui fait que quand Prométhée vient examiner le travail de son frère Épiméthée, il ne reste plus rien pour les humains. Et voilà pourquoi Prométhée va aller chercher chez Héphaïstos et Athéna les armes et le feu pour les donner aux humains. Et c'est là que les humains vont pécher par hubris, parce que avec les armes et le feu, ils vont se prendre pour les dieux, pour l'égal des dieux. Ils vont construire la technique, ils vont rentrer dans le monde de la technique, comme dira à nouveau Heidegger. Et là, on voit donc ces humains pécher par hubris, se prendre pour des dieux. Et c'est pour ça que Zeus va punir terriblement Prométhée. Il va l'attacher au Caucase et il va lui faire bouffer le foie par un aigle chaque soir. Et le matin, le foie est repoussé et le supplice recommence jusqu'à ce que Héraclès finisse par délivrer Prométhée, mais c'est une autre histoire. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est le thème philosophique le plus profond de toute l'histoire de la philosophie à mes yeux, c'est que les humains qui n'ont pas de fourrure, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont rien, ils ne courent pas vite, ils ne grimpent pas aux arbres, ils sont tout nus, ils sont bons à rien, mais ils vont être obligés d'inventer leur vie. C'est parce qu'ils ne sont rien qu'ils vont pouvoir devenir tout, alors que les animaux sont programmés, comme les abeilles à fabriquer du miel, ou les chats à courir après les souris, les humains, parce qu'ils ne sont rien, vont pouvoir devenir tout, c'est la liberté humaine, ils vont être contraints, si je puis dire, à être libres.
Merci beaucoup Luc Ferry, on vous retrouve lundi, ce sera avec Charles Bonner.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Étienne.
Bonjour David.
Après la France et l'Italie, c'est au tour de l'Allemagne de revoir à la baisse ses ambitions de croissance.
Et oui, avec la guerre commerciale, on en oublierait presque les difficultés propres à la zone euro, qui sont nombreuses, en particulier du côté allemand. Les économistes outre-Rhin espèrent désormais au mieux une croissance zéro en 2025, après deux années de récession, et ce malgré le méga plan d'investissement du nouveau gouvernement, qui de fait ne commencera à porter ses fruits qu'en 2026. En France, Bercy ne table plus que sur 0,7% de croissance cette année, un objectif jugé encore trop optimiste par l'OFCE notamment. Enfin, en Italie, la prévision a été carrément divisée par deux, à 0,6% seulement. Alors même si